Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux grèves de mai-juin 1936 et au Front populaire. Toujours avec notre invité Charles Jacquier, historien et éditeur de trois ouvrages dont nous avons largement parlé dans les deux premières parties de cette émission. Alors maintenant on va finir avec une partie du coup beaucoup plus courte et assez tragique puisque c'est à la fois celle du reflux, voilà, du mouvement de grève dont on a déjà un petit peu parlé, et puis surtout de la contre-offensive du capital qui s'amorce dès l'été de 1936 et qui va aboutir à la défaite d'une part du mouvement ouvrier en novembre 1938. Et aussi à la politique de Paul Reynaud qui va supprimer pas mal d'acquis du Front populaire, notamment on va repasser, si mes souvenirs sont bons, à la semaine de 48 heures. Voilà, donc il y a un certain nombre de décrets-lois qui matérialisent cette contre-offensive. Et tout cela va laisser le mouvement ouvrier dans un piteux état et il n'aura pas le temps de récupérer avant septembre 1939, la guerre. Et finalement, ce qui va s'en suivre. Donc voilà, on va revenir rapidement sur cette période.
La contre-offensive du patronat, elle est quasi immédiate. Elle va se passer dans un premier temps en interne, dans la mesure où les promoteurs des accords Matignon vont être désavoués par la confédération patronale, et donc ceux qui avaient adopté la politique qui consistait à se rapprocher des syndicats et à accorder un certain nombre d'acquis sociaux vont être désavoués avant même la fin du mois de juin et remplacés par une équipe de choc du patronat dont la seule perspective jusqu'à la guerre va être de revenir sur les acquis sociaux ou sur les conquêtes sociales de 36. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement, là aussi, dans un premier temps, j'ai dit tout à l'heure, les grévistes savent qu'on va pas leur envoyer la police ou l'armée. Mais ça va très vite changer. Puisque dès le mois de juyet, Salengro, qui est le ministre de l'Intérieur socialiste, dans un premier temps, désavoue les occupations d'usines devant le Sénat. Il est obligé de faire machine arrière, mais le pli est déjà pris. Et ensuite, en septembre, la police est envoyée dans une chocolaterie du 15e arrondissement de Paris qui est en grève. Donc on retourne à des méthodes traditionnelles. La police est envoyée contre une usine en grève occupée pour déloger les grévistes, etc. Simone Veil a très très bien vu tout ça. Et a été, à ma connaissance, la première personne proche du mouvement syndical à comprendre ou à analyser le fait que le rapport de force qui avait été établi pendant les grèves risquait de basculer en sens inverse. Et donc c'est le propos des articles suivants dans ce recueil. La politique prônée par Simone Veil, en gros, c'est de considérer qu'il faut donner une perspective au mouvement syndical, une perspective stratégique générale, qui sera celle du contrôle ouvrier. Et que c'est en adoptant une perspective autour du contrôle ouvrier, ou de la promotion et la défense du contrôle ouvrier, que le mouvement syndical pourra résister à la contre-offensive patronale. Mais malheureusement, c'est pas du tout le, c'est pas du tout le, la façon que choisira le mouvement syndical dans cette période-là, puisqu'il est totalement surdéterminé par des questions en gros politiques. D'ailleurs, dans un premier temps, face au gouvernement de Front Populaire, la tactique adoptée, ça va être, il faut pas gêner le gouvernement. Le gouvernement nous est favorable. Donc, il faut pas faire de vagues. Il faut être gentil. Il faut rentrer. Il faut reprendre le travail. Maintenant, on a eu un certain nombre d'acquis, etc.
Alors, il faut savoir terminer une grève.
Il faut savoir terminer une grève. Alors là, en général, vous avez le stalinien de service qui vous dit, du moment que satisfaction a été obtenue. qui est d'ailleurs la citation exacte de Torres, mais qui est quand même une sorte de mauvaise logomachie pour dire que il faut savoir s'arrêter et ne pas aller trop loin. Là aussi, Simone Veil y insiste dans un tout petit article qui est reproduit dans le volume, un tout petit article de la Révolution prolétarienne sur une grève dans une usine de la métallurgie dans l'est de la France. Je dis toujours le décalage dont j'ai parlé tout à l'heure entre Paris ou les grandes régions industrielles et puis les coins un peu plus reculés. Là, cette usine démarre la grève pour obtenir un alignement sur ce qui a été obtenu dans la région parisienne. Et en fait, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même, qui vient haranguer les grévistes pour qu'ils reprennent le travail. Et finalement, les grévistes reprennent le travail un peu la queue entre les jambes et sans avoir obtenu grand-chose et pas du tout ce qui avait été accordé dans la région parisienne. Et Simone Veil souligne, et pas du tout partisan d'une politique maximaliste, mais souligne que ce type d'intervention malencontreuse peut être extrêmement négative et peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. Et donc elle introduit l'idée dont j'ai parlé tout à l'heure du contrôle ouvrier. Le deuxième événement, ça va être la grève. Donc on voit que les choses vont très très vite. Septembre 36, dans une entreprise parisienne, qui est de métallurgie aussi, qui s'appelle Sauter et Harley, qui voit le licenciement de ses délégués syndicaux les plus actifs. C'est une usine d'ailleurs que Simone Veil avait visitée pendant les grèves avec Occupation, avant de visiter la régie Renault à Billancourt. Elle avait visité l'usine Sauter et Harley dans la mesure où l'un des militants syndicaux du coin était un gars qui s'appelait Félix Guyard, qui était un militant anarchiste proche de Mercier Véga, Charles Ribel, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est par là que, c'est en connaissant ces militants-là, que Simone Veil s'est retrouvée ensuite en Espagne, tout ça pour l'anecdote. Donc la grève Sauter et Harley, là le patronat n'hésite pas à licencier une bonne dizaine de délégués syndicaux très, très, très actifs. Et la grève se termine un peu en demi-teinte. Ensuite, le gros événement, enfin le premier grand événement avec des conséquences tragiques, ça va être la manifestation de Clichy de février ou mars 1937, février je crois. C'est-à-dire que Clichy est une commune, comme chacun sait, de la banlieue parisienne, qui a une municipalité de gauche à l'époque, qui fait partie de la banlieue rouge, on va dire. C'est cette ville que le Parti Social Français, qui est la continuation des Croix de Feu du Collège de la Roque, là, donc ligue d'extrême droite dont on a parlé tout à l'heure, qui décide de tenir un meeting dans cette ville. Et donc il y a un appel à une contre-manifestation de la SFIO, le PC, etc. Et manifestation qui va finir d'une manière tragique, puisqu'il y a plusieurs manifestants qui sont blessés, dont une militante d'ailleurs de la gauche révolutionnaire qui va décéder quelques quelques semaines plus tard des suites des blessures qu'elle a récoltées pendant cette manifestation. Et c'est vraiment la première fois qu'on sent qu'il y a un divorce extrêmement important entre une partie de la base du Front Populaire et ses dirigeants.
Du coup, là, c'est les policiers, en l'occurrence, qui ont blessé, même pas les fascistes, un peu, ou les deux.
Ben, c'est les policiers qui ont surtout blessé les contre-manifestants, socialistes et communistes qui s'opposaient au meeting du parti de Delaroque. Et ça crée ce divorce quasiment dans le sang, puisqu'il y a une militante de la gauche révolutionnaire, il y a plusieurs blessés graves, et notamment une militante de la gauche révolutionnaire qui décède quelques semaines après des suites de ses blessures. Quoi. Donc ça, c'est le premier grand divorce, on va dire, ou la première fois que le pouvoir, donc le gouvernement de Front Populaire, envoie la troupe, non seulement pour déloger, là c'est pas seulement pour déloger un peu à la bonne franquette une petite chocolaterie en grève, c'est pour tirer sur des manifestants. L'élément suivant qui va avoir lieu, ce sera la grève Goodrich, donc qui est une grande usine de pneumatiques de la banlieue parisienne, qui a lieu en décembre 1937, et qui montre, alors cette grève, il y a un très intéressant article de Pivert, parce que la gauche révolutionnaire essaye et réussit à s'implanter dans un certain nombre d'usines, à une base ouvrière, quoi, et à des groupes d'entreprises dans pas mal d'usines de la région parisienne. Et donc, en suivant ces groupes d'usines, Pivert fait un compte-rendu de cette grève qui paraît dans la revue théorique de la gauche révolutionnaire qui s'appelle « Les cahiers rouges », qui paraît quasiment à chaud, quoi, quasiment à la fin de la grève. Donc, il fait un bilan de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable combativité ouvrière pour s'opposer aux reculs sociaux qui commencent à être imposés, d'abord par le gouvernement Blum et puis ensuite par le gouvernement Chotin, donc qui est un radical, à la suite de la démission de Blum. Pour résumer, Blum se heurte à une décision du Sénat sur sa politique financière, et au lieu de passer outre, y compris en s'appuyant sur la rue, etc., Blum s'écrase et suit la légalité bourgeoise, quoi. Donc démissionne et il est remplacé par un gouvernement Chotin, radical, avec soutien socialiste. Et donc ces gouvernements-là commencent à revenir sur les acquis de 36, en particulier dans les industries d'armement, sous prétexte que il y a la guerre qui menace, et donc il faut pas pénaliser, il faut faire tourner le plus possible les industries d'armement, les usines de la métallurgie qui travaillent pour l'industrie d'armement. Donc ça va être une des premières grosses entorses, par exemple aux 40 heures, ce qui a été décidé sur les 40 heures en juin 36. Donc le patronat poursuit sa politique de contre-offensive, avec l'aide désormais affichée du gouvernement radical. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une combativité ouvrière qui s'y oppose. Donc c'est en gros ce que signifie cette grève Goodrich, où il y a des tentatives de militants syndicaux les plus radicaux d'extension aux usines de la ville, même aux usines de la région parisienne, mais qui est complètement contrecarré par le PC et par la CGT, sous prétexte qu'il ne faut pas machin généraliser ou il ne faut pas gêner, etc. Il va y avoir une deuxième grève ensuite dans la métallurgie parisienne, dans l'ensemble de la métallurgie. qui là aussi sera, enfin la conduite de la grève sera surdéterminée par des motifs politiques. En gros, le PC n'est pas prêt à appuyer des grèves trop radicales, dans la mesure où ce qui domine ses préoccupations, c'est la politique internationale et c'est le danger de guerre.
Donc c'est le réarmement, quoi.
Non, c'est non seulement le réarmement, mais c'est le fait qu'il ne faut pas trop se fâcher avec les radicaux et avec les autres et avec les autres partis. Donc il faut au mieux canaliser les grèves, au pire
les étouffer.
Sans du tout la perspective stratégique qu'avait posée Simone Veil de contrôle ouvrier, quoi. Le contrôle ouvrier, il est complètement absent du discours de la CGT, puisque la CGT cautionne dès la CGT, alors toutes tendances confondues, hein, cautionne dès octobre 36 ce qu'on appelle l'arbitrage obligatoire, qui est en gros le fait qu'on ne peut pas déclencher une grève sans avoir réuni les partenaires sociaux avec un espèce de médiateur. Le tout avec une période avant qu'on puisse déposer un préavis, etc. Ce qui est une manière très très claire de couper sous l'herbe sous le pied des conflits sociaux. Mais la CGT, non seulement ne le combat pas, il y a des courants de la CGT, en particulier il y a des articles extrêmement virulents dans la Révolution prolétarienne contre cet arbitrage obligatoire, mais la direction de la CGT accepte le truc et va même jusqu'à dire qu'il faut temporiser sur les grèves, etc., etc. C'est le sens du dernier article du recueil Simone Veil, d'ailleurs, qui s'appelle « La déclaration de la CGT » et qui pointe la difficulté à mener une politique syndicale favorable aux salariés avec de tels principes. Donc échec aussi donc de la grève Goodrich, échec de la grève générale dans la métallurgie parisienne au printemps 38 si ma mémoire est bonne, et finalement la politique, je veux dire c'est simple question de rapport de force, le rapport de force étant de moins en moins favorable au mouvement ouvrier, le patronat et le gouvernement avancent leur bille de plus en plus de leur côté. Et finalement, la CGT est contrainte, après un congrès extrêmement difficile, compliqué, entre les tendances internes qui la tiraillent, appelle finalement à une grève générale, mais uniquement une grève générale de 24 heures, non reconductible, le 30 novembre 38, qui est annoncée avec beaucoup d'avance, qui est annoncé bien en avance et qui, en gros, dans un contexte qui lui est défavorable, permet au patronat et au gouvernement de préparer l'échec de la grève, quoi. Et donc, on peut dire que la grande période de lutte sociale et de conquête sociale de 36 se termine sur l'échec assez cuisant, assez retentissant de la grève générale du 30 novembre 38, je pense, dans la mesure où la CGT a complètement abandonné ses principes d'avant 14 et a raisonné uniquement comme un instrument d'encadrement de la force de travail, dont les préoccupations étaient surdéterminées par des préoccupations qui étaient à son lieu de la lutte des classes et de l'autonomie ouvrière.
Donc, je pense que cet exemple de la grève du 30 novembre 38, ça rappelle un peu cette tendance qu'on voit dans toute l'histoire des partis ouvriers, alors que ce soit le Parti communiste ou les partis sociaux-démocrates, de lancer une grève générale trop tard, mal préparée, bancale, à la dernière minute quand tout est perdu. Donc je pense au Parti social-démocrate autrichien qui tente une grève générale en 1934 alors que c'est déjà fini et que l'austrofascisme est déjà trop fort, ou à d'autres grèves générales du du même type, et notamment celle en Italie en 1980 de Fiat, qui est un échec complet et qui va vraiment marquer la fin de la décennie d'agitation en Italie, qui avait eu lieu particulièrement de 68 à 77. Alors, du coup, on va finir cette émission qui a déjà duré 2 heures. Pour d'autres perspectives encore que celles des 4 ouvrages qu'on a cités. Il y a également un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Ouvrier contre le travail » de Michael Seidman, donc qui compare un peu Barcelone et Paris pendant les fronts populaires, donc pendant la Révolution espagnole et pendant le Front populaire en France. Et on n'en a pas trop parlé, non pas parce que le bouquin n'est pas intéressant, en réalité il est extrêmement intéressant, mais parce qu'on va faire une émission avec Michael Seidman fin 2017, début 2018, à l'occasion de sa venue en France. Et on recommande également chaudement la lecture qui sera en lien de l'article de Barthélémy Schwartz qui forme la postface de l'ouvrage de Daniel Guérin, enfin disons de la réédition de l'ouvrage de Daniel Guérin aux éditions Agone, donc Front populaire, Révolution manquée, en 2013. Donc ça, c'est aussi deux choses très intéressantes à lire. Donc merci Charles Jacquet pour cette émission.
Ben, merci à toi.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.